BFM Bourse, l'écho du monde.
Et un chiffre important aujourd'hui, c'est aux États-Unis, le PIB américain, la croissance du premier trimestre a été publiée. Gilles Mouek est avec nous, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors ravi de vous retrouver. Ça fait des trimestres et des trimestres et des trimestres qu'on admire les États-Unis, qu'on s'ébahit devant chaque chiffre de croissance. Là, on a quand même un chiffre qui ralentit nettement. On attendait une croissance au premier trimestre aux États-Unis de 2,2%. Elle ressort à seulement, enfin c'est quand même pas mal, mais seulement 1,6%. Est-ce que c'est le début d'un vrai coup de frein d'après vous sur la dynamique américaine?
Et puis 1,6 c'est en annualisé, donc si on le mesurait à l'européenne, ce serait 0,4. Donc là, tout d'un coup, ça paraît effectivement pas stellaire du tout. Alors, c'est assez intéressant quand on regarde les contributions, parce que tout est un peu mou du côté de la demande intérieure. Et ça, c'est sans doute l'élément qui va le plus rassurer la Fed. On a un ralentissement assez net hein, de la consommation privée. On a aussi un investissement non résidentiel qui est un peu mou, donc rien de catastrophique côté demande non intérieure, mais c'est quand même un peu plus plat. Et ça, ce serait quand même le signe que au final, le durcissement des conditions monétaires a bien fini par avoir un impact, que le consommateur américain commence à fatiguer un petit peu. Mais le grand élément qui fait passer la croissance américaine un peu en dessous du potentiel, c'est la contribution très négative des échanges extérieurs. Et ça, c'est probablement le prix que les États-Unis payent pour l'appréciation du dollar, qui commence à avoir un impact assez adverse sur les exportations, alors qu'on a des importations qui se tiennent très bien, alors même que la demande est un peu en retrait. Donc c'est plutôt un signe d'affaissement, mais ce n'est pas ce que le marché retient, parce que le marché s'intéresse essentiellement à l'inflation, parce qu'on a cette obsession bien compréhensible d'ailleurs autour de ce que la Fed fera. Et le chiffre de l'inflation sous-jacente, déflateur de la consommation sous-jacente pour le premier trimestre, est cohérent avec, on aura le chiffre de mars lundi, avec de nouveau un chiffre d'inflation très très charnu pour le mois de mars. Et donc c'est ça qui fait dévisser le marché. Un de vos interlocuteurs tout à l'heure parlait, résumait avec moins de croissance, plus d'inflation, c'est un peu ça. Simplement, j'ai l'impression qu'il faut aussi remettre un peu en mémoire la séquence. C'est-à-dire qu'en général, il faut d'abord obtenir un ralentissement de la croissance avant de commencer à avoir un effet sur l'inflation. Donc le chiffre de l'inflation sous-jacente au premier trimestre est bien évidemment problématique, et ça participera du fait que la Fed attendra probablement maintenant plusieurs mois avant de commencer à baisser ses taux. Mais soyons un peu patients. Il fallait obtenir ce ralentissement. Ce ralentissement est peut-être en train de venir. Il faut être prudent, parce que ça peut être simplement aussi la variation un peu aléatoire des données, mais il semble que ça ralentisse. La deuxième étape, ce sera une décélération un peu plus franche de l'inflation sous-jacente, et ça peut prendre encore quelques mois.
Et alors quelques mois justement, c'est combien? Juin, juillet, septembre, pourquoi pas plutôt attendre la fin de l'année ou 2025? Enfin, vous êtes en train vous-même peut-être chez AXA d'ajuster un petit peu le tir sur le calendrier de baisse de taux de la réserve fédérale américaine. On voit l'hypothèse d'une hausse de taux même poindre, alors elle est très limitée, hein, à peine 20%, 20% de probabilité, enfin c'est pas rien non plus 20%. Comment est-ce que vous vous ajustez vous-même, Gilles?
Nous, on a encore deux baisses de taux de la part de la Fed, avec un premier mouvement au mois de septembre, parce que on était jusque-là sur trois baisses de taux avec un démarrage au mois de juin. Donc on intègre complètement le fait qu'effectivement le flux de données ne peut pas à ce stade donner un niveau de confiance suffisant à la Fed pour baisser ses taux très très vite. Donc une attente jusqu'à la fin de l'été, ça nous paraît quelque chose de cohérent avec l'assessement de la demande intérieure qui se traduirait à la fin par un ramassement supplémentaire de l'inflation. La hausse des taux, pourquoi faire? C'est-à-dire que ça a été un peu évoqué en creux par plusieurs membres du board de la Fed qui ont dit tout simplement, si on s'aperçoit que l'inflation ne ralentit pas, eh bien on maintiendra les taux là où ils sont pendant plus longtemps. Parce que les taux, quoi qu'on parle, je crois comme tout le monde qu'effectivement probablement le taux d'intérêt d'équilibre aux États-Unis a remonté, quand même à 5,5 on tape. Et si on reste à 5,5, le simple fait de rester à 5,5 alors que l'inflation a quand même ralenti fortement depuis plus d'un an, c'est normalement suffisant pour faire atterrir à la fin des fins l'inflation. Donc la hausse des taux, ça me paraît encore un scénario très vraiment très très extrême. Donc 20% de probabilité, ça me paraît élevé. Sauf, gardons en tête les élections américaines à la fin de l'année. Si effectivement on a la mise en place de la politique Trump telle qu'elle est aujourd'hui décrite par Trump, c'est-à-dire hausse des tarifs douaniers massives accompagnée de baisse d'impôts, là, on peut effectivement être dans une configuration où la Fed est obligée d'augmenter ses taux. Mais pour cela, il faudra que Trump non seulement gagne l'élection présidentielle, mais qu'il gagne également le contrôle du Congrès, et on n'en est pas là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment seulement sous cette hypothèse-là qu'on pourrait vraiment envisager une hausse des taux.
Une dernière question. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin à la Sorbonne à propos de l'avenir de l'Europe. Il a parlé aussi des mandats, des mandats de la Banque Centrale Européenne, en expliquant, voilà, le mandat unique d'inflation actuel est un peu daté, a-t-il dit. Il faudrait, pourquoi pas, ajouter un mandat aussi de croissance, c'est un peu ce qu'ont les Américains, et aussi un mandat climatique, d'atteinte d'objectifs climatiques. Ce qui ferait donc éventuellement trois mandats à suivre pour une seule Banque Centrale. Et ça vous semble jouable ou pas, franchement, Gilles?
Il y a déjà en fait en pratique une espèce de mandat climatique à la BCE, puisque d'ailleurs sous l'impulsion de Christine Lagarde, il y a eu ce qu'on appelle un verdissement du cadre opérationnel de la BCE. Donc la BCE ne se désintéresse pas de la question climatique, c'est même l'inverse. Sur la question de l'ajout d'un objectif d'emploi, de plein emploi à l'objectif habituel d'inflation. Bah, j'ai vraiment quelques doutes sur l'impact réel de ce type de modification, à supposer que cette modification sera acceptable pour nos partenaires européens, et je crains bien que du côté de Berlin, la résistance soit assez massive. Mais regardez le comportement de la Fed. Est-ce que la Fed a été véritablement plus coulante, entre guillemets, que la BCE dans cette phase de lutte contre l'inflation? Pas vraiment. Donc voilà, c'est probablement recréer un débat un peu difficile avec l'Allemagne pour un résultat final qui n'est pas forcément très 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 tangible. Moi, c'est ce que je suis démodé. J'ai appris la politique monétaire dans les années 90. Si tout marche bien, il n'y a pas de conflit d'objectif. C'est-à-dire que si l'inflation est haute, a priori, ça veut dire qu'on est plutôt dans une phase conjoncturelle favorable, et ça veut plutôt dire que l'emploi est en train d'aller dans la bonne direction. Les cas où l'inflation augmente très vite, alors même que la situation conjoncturelle se dégrade, sont assez rares. Et dans ces cas-là, en général, la Banque centrale d'elle-même intègre cette dimension d'emploi. Mais encore une fois, je suis un peu vieux jeu.
Mais non, c'est pas du tout. Gilles, merci beaucoup de nous accompagner régulièrement, chaque jeudi, depuis des années d'ailleurs, sur BFM Business, chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup, bon après-midi à Londres.